Voilà, des déficits à venir. C'est une question qu'on pourrait poser à notre invité, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, y a-t-il des indicateurs de performance? Parce que là, on paye des impôts, mais contribuable, lui, peux-tu voir si l'argent où elle va, si on a de la performance?
Ah ben c'est une bonne question. Généralement, il y a des indicateurs de performance directement sur les sites du Conseil du Trésor, là, donc
Ouais,
ou
mais
du
les
gouvernement du
tableaux verts,
Québec
là.
ou sinon du Canada.
Ouais, les
Ouais,
fameux.
c'est ça, c'est des tableaux de bord, si on veut, là.
Ouais, mais quand on fait après ça, on se rend compte qu'il y a eu des gros scandales, les tableaux étaient tous au vert.
Ouais, oui, effectivement, à quelques exceptions près, peut-être comme je pense que c'est la SAAQ que finalement il n'y a pas si longtemps, c'était au rouge parce que ben là, il n'y avait pas le choix. On s'entend qu'avec la commission Galant puis avec toute l'histoire de sa clique, il n'y avait pas le choix de reconnaître que c'était pas très bien géré, puis la performance n'était pas du tout au rendez-vous. Ben c'est vrai que des fois, mettons que les indicateurs, on peut facilement jouer avec. Sinon, en général, les indicateurs sur lesquels on peut se baser, mettons, c'est plus à quel point il y a une croissance des dépenses gouvernementales, donc à chaque budget, l'état de la dette, l'état des finances publiques en général, l'état des déficits. Je pense que c'est des indicateurs assez importants parce que si on ne fait qu'accumuler des déficits et donc on ne fait que s'endetter à répétition, mais qu'il n'y a aucune amélioration en contrepartie, ben c'est là, je pense que ça devient le plus dramatique pour les contribuables. C'est-à-dire qu'on est constamment perdant. Non seulement on est plus imposant en Amérique du Nord, on paye constamment plus cher pour tout, on a de plus en plus de taxes et d'impôts. Il y a même des discussions pour en créer des nouveaux ou d'annuler des baisses d'impôts précédentes. Puis là, ben après, on voit les déficits qui s'accumulent, les décotes qui pourraient survenir, puis l'absence de plan rigide de la part du gouvernement pour équilibrer les finances publiques. Donc, je pense que ça aussi, ça reste des indicateurs assez pertinents à retenir en tant que contribuable.
Dans l'OCDE, le Québec serait où si on était un pays? On serait-tu les plus taxables, les plus imposés?
Ben, déjà, au Canada, on est la province, ou du moins, on est la juridiction nord-américaine avec le poids fiscal le plus lourd. Mais si le Québec était un pays, si je me trompe pas, puis si je me base sur l'observation de la chaire en finance et en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, je pense qu'on serait 9 ou 10e sur les 38 pays de l'OCDE. Clairement que,
On serait parmi.
mettons, demain matin, le Québec devient un pays, on serait pas parmi les meilleurs, mettons.
Fait que le modèle que les gens du Parti québécois nous proposent, ça serait un Québec hyper taxé, hyper imposé. Là, on ne change rien, on continue. C'est à peu près ça qu'ils nous proposeraient, là. Plus, parce qu'on aurait des déficits monstres qu'on empilerait sa dette dans les premières années, là.
Ben, c'est sûr que si on ne touche pas au modèle tel qu'on l'a présentement, tel qu'il va être maintenu dans une bonne mesure par le Parti québécois, c'est sûr que ça changera pas beaucoup. Par contre, ce que je dois leur donner, c'est qu'il y a vraiment un changement de discours par rapport aux subventions aux entreprises. Je pense que en fait, la plupart des partis québécois, les partis au Québec plutôt, ont reconnu à quel point les paris du gouvernement Legault avec la filière électrique, entre autres, avaient été non seulement impertinents, vous avez fait perdre des centaines de millions de dollars, voire millions. Et en plus de ça, ben, faut dire franchement, c'est assez impopulaire maintenant au sein de la population. Les gens ont enfin compris. Il y a encore, bien sûr, du monde dans le milieu patronal et dans le commentariat qui espérait que le gouvernement continue à intervenir à outrance dans l'économie avec ses différents leviers économiques, comme Investissement Québec ou le ministère de l'Économie. Mais bref, ce que j'ai vu récemment dans le Journal de Montréal, c'est justement le Parti québécois qui mentionne que protéger les entreprises d'ici, ça ne va pas nécessairement se faire avec des chèques. Ça peut être en améliorant le cadre fiscal et réglementaire. Maintenant, quel genre de baisse d'impôts ils vont réserver aux PME? Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, le Parti québécois proposait d'offrir les plus importantes baisses d'impôts aux PME, des baisses d'impôts historiques, comme vous êtes cité. Donc, j'ai hâte de voir ça être quoi le plan de match, parce que, bon, les plateformes des partis politiques n'ont pas encore été bâties. Là. C'est en train d'être fait présentement en vue des élections qui s'en viennent cet automne. Mais une chose est sûre, il y a de plus en plus de gens, même parmi les défenseurs du modèle québécois les plus ardents, qui reconnaissent que, ben, on n'a pas le choix de changer la recette parce que ça ne fonctionne plus du tout.
Mais c'est pas ça qu'on entend, là. Je comprends, mais moi, j'entends juste des partis politiques. À part le Parti conservateur du Québec, je regarde, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale veulent continuer à taxer puis à monter des taxes puis à imposer davantage les citoyens du Québec.
Oui, ben c'est ça, malheureusement, ça c'est pas à veille de changer, là. Je pense que c'est la semaine dernière, c'était Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications, qui laissait entendre que ben, si le gouvernement fédéral va pas plus loin avec sa fameuse taxe sur les services de streaming, pour ne pas dire sa fameuse taxe Netflix, ben, le gouvernement du Québec va s'en doter d'une. Donc essentiellement, vu que le fédéral ne taxe pas assez, ben, le Québec va taxer
Hey, ça, c'est
davantage. C'est un peu
incroyable,
ce qu'on dit,
pareil.
ici.
C'est incroyable. Puis le gars s'en va en élection, s'en va lâcher ça juste avant les élections. À la CAQ, ils ont dû l'aimer beaucoup.
Oui, puis peut-être que dans certains milieux artistiques ou de l'industrie de certains médias, on pourrait imaginer qu'ils voient ça d'un bon œil parce que, au final, le but de la taxe Netflix, c'est d'aller chercher de l'argent dans les poches des entreprises de streaming, puis ensuite de les redistribuer via un fonds au milieu des arts et de la culture. Donc, essentiellement, c'est on prend à l'un pour donner à l'autre.
Ouais.
Mais donc c'est pour ça que ceux qui vont recevoir sont peut-être plus intéressés par la taxe Netflix que ceux qui vont la payer. C'est-à-dire vous et moi, qui, avec nos factures, on va remarquer essentiellement sur nos abonnements mensuels que ben, le prix va augmenter, comme ce fut le cas avec la taxe Netflix fédérale, d'ailleurs, en 2024, quand c'est entré en vigueur. C'est ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi. C'est une taxe de 5% sur tous les revenus en fait de diffusion au Canada ou en juridiction canadienne des entreprises de streaming qui font plus de 25 millions de dollars par année. Donc, essentiellement, 5%, ça a l'air de rien, mais ça s'est ressenti assez rapidement sur les factures. Là, il n'y a pas si longtemps, le CRTC voulait monter ça à 15%.
Ouais.
Il a fallu que le gouvernement libéral de Mark Carney leur dise de se calmer, ce qui est quand même assez intéressant. Par contre, ce que je trouve un peu niaiseux là-dedans, c'est qu'au final, le gouvernement espérait aller chercher pas loin de 600 millions de dollars avec cette taxe-là. Fait qu'au lieu de la faire payer aux entreprises de streaming, ce qui restait quand même stupide en premier lieu, ben, il a fait payer à l'ensemble des contribuables canadiens. Donc, on va creuser davantage le déficit et aller chercher cet argent-là dans des poches qu'on n'a pas, de l'argent qu'on n'a pas essentiellement pour financer le fameux fonds qui va servir à soutenir là, les arts et la culture. Mais bref, dans tous les cas, c'est le consommateur qui est perdant. Puis ça fait en sorte aussi que les entreprises de streaming ne voudront plus nécessairement se produire ou diffuser au Canada. Il y a vraiment un risque présentement parce que, comme le fait de reconnaître, c'est un professeur de l'Université d'Ottawa, c'est Michael Gace, qui disait carrément que le Canada présentement est une des places sur Terre où est-ce que ça coûte le plus cher pour une entreprise de streaming à se produire et à diffuser.
Ben oui, c'est
Si on
ça.
rajoute en plus une taxe au Québec, on va les faire fuir littéralement.
On a ça dans le cellulaire aussi, là. Tu as quatre entreprises
Ouais.
seulement qui se partagent comme des monopoles, hein? On aime ça, les monopoles au Canada.
Ben oui, un peu trop. Puis c'est quand on n'aime pas les monopoles privés qu'on protège avec des CRTC et d'autres règles du genre, ben sinon c'est des monopoles publics avec des sociétés d'État. C'est un ou l'autre essentiellement.
Ouais, fait que je sais pas si la CAQ va nous reparler de taxes Netflix avant les élections. D'après moi, Mathieu Lacombe, qui avait dit récemment qu'il était aussi souverainiste, là, ça a sorti. Dans un comté, lui, il représente les gens de Gatineau. T'es pas plus fédéraliste que ce coin-là. Quand même bizarre. Mathieu Lacombe, je sais pas, là, c'est quoi ses récentes sorties, mais c'est très, très. C'est pas réussi. C'est pas réussi, puis il veut imposer encore plus les Québécois. Éric Girard, tu nous dis une note de C- sur Total, palmarès annuel des ministres des Finances.
Oui, bon, on fait ça à chaque année. À ce temps, c'est un rapport qui nous permet de comparer les résultats, surtout le travail qui était livré à travers les derniers budgets par les ministres des Finances des différentes provinces. On a évalué en fait plusieurs indicateurs, notamment la dette, la croissance des dépenses, le service de la dette, puis les allègements fiscaux. Puis sur les 10 ministres des Finances, ben cette année, Éric Girard fait meilleure figure que l'an dernier parce que bon, l'an dernier avec le déficit record, c'était dur de le laisser passer avec une bonne note. Dans ce cas-ci, c'est moins. Donc il est ni bon ni mauvais, il est comme médiocre en fait. Il se retrouve en cinquième position sur 10. Celui en tête, bien sûr, en première position, c'est le ministre des Finances Jim Rightner de la Saskatchewan. Et le moins bon, c'est la Colombie-Britannique, donc Madame Brenda Bailey, avec la lettre de F. Donc, eux, c'est vraiment un échec
F.
sur toute la ligne. La
OK.
dette explose. Ouais, F, parce que les déficits explosent. Non seulement il n'y a pas d'allègement fiscaux, mais il augmente les taxes et les impôts. Bref, ça va pas très bien en Colombie-Britannique. C'est vrai qu'au Québec, on a le poids fiscal le plus lourd, mais on dirait qu'il y a une compétition avec les provinces plus à l'ouest ou à l'est pour essayer de battre le Québec. Donc, n'en reste qu'au Québec, malheureusement, on n'a pas des bons indicateurs. La dette, là-dessus, Éric Girard, il y a soit la lettre de D, parce qu'on a une dette provinciale quand même même, qui est à 272 milliards, ça c'est la dette brute que du gouvernement. Ça représente 30 214 $ par Québécois. Ça se trouve être la troisième, en fait, c'est du troisième niveau le plus élevé au pays. Sur le service de la dette aussi, on parle de 10,3 milliards de dollars cette année qu'on paye en intérêt. Ça représente 1 138 $ par Québécois. C'est le quatrième niveau le plus élevé au pays. Et finalement, allègements fiscaux. Ben, dans le dernier budget, il n'y avait pas d'allègements fiscaux, on s'en souvient. Même pire, le gouvernement du Québec augmente de 1 point de pourcentage la taxe sur les produits d'assurance à partir du 1er janvier prochain. Finalement, on n'a pas même de cadeau. Par contre, là où est-ce qu'il y a une bonne note pour Éric Girard, c'est comme vraiment comment dire, le diable qui se cache dans les détails, c'est la croissance des dépenses. Là-dessus, il y a la lettre de B pour bravo, essentiellement parce qu'on a la croissance des dépenses la plus faible au pays
Il
cette
l'a
année,
limité, ouais.
avec une croissance. Oui, il a limité. C'est la première fois qu'on voyait ça sous le ministre Girard, mais également au cours des dernières années, parce qu'il faut se rappeler que d'habitude, la croissance des revenus, en fait, plutôt la croissance des dépenses est double. Ou plutôt, les dépenses augmentent à un rythme 2 fois plus élevé que les revenus au Québec. Puis ça fait partie de ce qui creuse notre déficit structurel. Puis là, pour une rare fois, c'est l'inverse. Là-dessus, ils s'en tirent avec une pas pire note. Pour le reste des résultats, si les gens s'y intéressent, ils peuvent aller directement sur notre site web contribuable avec un S.ca. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Éric Girard s'en tire quand même avec un bilan qui est, je veux dire, qui est questionnable. Ça a été le ministre qui a encaissé la première décote depuis les années 90 au Québec. Des déficits records après déficits records, très peu d'allègements fiscaux sur ces 8 budgets, mais il n'en reste que c'est pas le pire. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait présumer là, à travers tout le pays, effectivement, tous ceux des provinces atlantiques, du Manitoba et de la Colombie-Britannique qui font bien pire.
Ouais, la dette brute du Québec est 380 milliards. La dette nette est quoi, quoi 259 milliards à peu près, là, c'est ça, autour de. C'est parce que tu as dit 279 milliards, c'est 380 milliards. La dette brute.
Ben, 300, on prend l'Institut économique de Montréal, c'est
ouais,
bien ça?
exact, ouais.
Oui. Ben, ça, parce que moi, je prends la dette provinciale qui exclut la dette des sociétés d'État et des municipalités. Donc, c'est pour ça que le score il est différent
OK.
là-dessus. 380 milliards, c'est vraiment la dette publique totale. Donc, le gouvernement du Québec, les municipalités et les sociétés d'État. Là, je parle vraiment juste du gouvernement québécois. Où est-ce qu'on. C'est ça, c'est 272 milliards pour la dette brute parce qu'on prend en considération les avantages sociaux et les pensions à verser. Par contre, la dette nette qui prend aussi en considération les actifs, on est à 250 milliards présentement avec un ratio dette PIB de 38%. Donc, c'est sous contrôle. C'est pas le pire, mais nous, on prend la dette brute parce qu'elle est beaucoup plus complète là, que dans ce que c'est.
Mais explique aux auditeurs, c'est quoi la logique de tout le temps s'endetter, de tout le temps piler sa dette, parce que la dette augmente tout le temps. Puis là, tu dis, oh, ratio cours PIB, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ta dette, tu as doué l'argent, là. Tu peux pas t'endetter tout le temps en pensant que les jours meilleurs vont arriver, là. À un moment donné, il y a peut-être une limite à s'endetter. C'est quoi la logique des gouvernements de s'endetter tout le temps comme ça?
Ben, aussi niaiseux que ça peut se paraître, déjà, parce que les gouvernements, ils payent pas vraiment le prix de l'endettement. Genre, du moins, les décideurs qui nous emmènent dans l'endettement, je veux dire, on prend par exemple Justin Trudeau, qui a littéralement doublé la dette du
Ouais,
Canada,
ouais.
où les libéraux, ils ont pas vraiment payé le prix politique d'avoir fait sauter la dette, là, au cours des 11 dernières années. Mais plus largement, c'est vrai qu'il y a un mythe qui est perpétué. Bon, il y a plusieurs économistes qui sont peut-être pas d'accord, mais il n'en reste qu'à la fin de la journée, on a une tendance où est-ce que l'endettement est presque encouragé en se disant c'est pas grave, tant qu'il y a de la croissance économique, on peut se permettre de s'endetter. Puis dans le pire des cas, ben, de toute manière, ça tombera sur le mandat de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça dans une certaine mesure. Mais oui, c'est toujours basé sur un wishful thinking de tant que l'économie se maintient et croît, ben, il n'y a pas de problème à ce qu'on augmente les dépenses et que la dette augmente parce qu'on peut la conserver sous un certain contrôle. Or, dès qu'on tombe dans une récession, une dépression économique, ben, ou que moins demain, un début de ralentissement, c'est là qu'il commence à avoir une pression assez importante qui se fait exercer sur les finances publiques. Mais il n'en reste que cette année, on a une belle morale, en fait, à retenir de tout ça parce que là, on a Mme Fréchette là, qui essaie de sauver les meubles de la CAQ, qui essaie de faire des allègements fiscaux comme sous forme de cadeaux pseudo-électoralistes à la dernière minute. Sauf qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Pourquoi elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre? Bien, parce qu'on a un déficit de 8,6 milliards cette année.
Ouais.
Veut pas, il faut quand même respecter le budget établi. Puis, ben, il y a un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire qui attire quand même l'attention des agences de crédit. Donc, si Mme Fréchette va trop loin, ça pourrait faire effectivement plus de dommages aux finances publiques que prévu. Et au final, ben, c'est ça. Si on avait des finances équilibrées et qu'on ne payait pas 10,3 milliards de dollars en services sur la dette comme c'est le cas cette année,
En frais
on aurait
d'intérêt, là.
beaucoup plus de marge de manœuvre.
Ouais.
Ben, c'est ça. On aurait de la marge de manœuvre pour aider le monde réellement avec, en fait, en allégeant la pression sur leur portefeuille avec des baisses d'impôts, des baisses de taxes, etc. Là, on n'a pas cette marge de manœuvre-là parce qu'on s'est endetté puis on gaspille des milliards en intérêt sur une dette qui continue d'augmenter. Donc, le gouvernement, il doit effectivement couper, mais comme je le répète souvent, attendez-vous pas à des miracles comme ça en année électorale. C'est pas là que les gouvernements vont se mettre à couper, c'est plutôt l'année suivante. Donc, on verra si jamais ça se concrétise.
Ou le prochain gouvernement, parce que si la CAQ n'est pas élue, le prochain gouvernement, lui, va ramasser la facture, puis ça va faire mal. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir. On peut aller sur le site, hein, de la Fédération.
Oui, absolument. C'est sur contribuable avec un S.ca. D'ailleurs, je vais être à Québec demain. Je mets un petit spoiler comme ça, mais ça se peut que je sois à l'Assemblée nationale pour faire une petite conférence de presse et livrer une pétition qu'on a montée de notre côté. Donc, qui concerne une taxe bien connue. Je vais m'arrêter là pour trop divulgâcher l'événement de demain. Mais je vous mettrai au courant de ce qui va, comment dire, ce qui va en résulter.
Bon, Nicolas, merci beaucoup, t'es salué. À la prochaine.
C'est un plaisir. À
Salut.
bientôt.
Bye.
Salut.
Salut. C'est sûr que quand tu travailles pour la Fédération canadienne des contribuables ou des contribuables ou whatever, on est des contribuables à gauche pas à droite, là,
Oui.
tu dois te sentir des fois isolé, là. Demain, il va être à l'Assemblée nationale, il va faire une conférence de presse. Tu essaies toujours de mordre, là, quelque part, là,
Ben, c'est ça.
Mais tout le monde rit de toi, là. Je veux dire, tu le vois, là, comment les contribuables.
Le vent en face, mettons.
Hein?
C'est ça.
Un peu ça, hein? Mais on essaye, nous autres, de faire notre part, là. Je veux dire, on n'est pas gros, hein? On essaie de jaser
Eh oui.
contribuables puis d'argent qui dépensait à gauche par à droite. Voilà. Hey, après la pause, un médecin débarque, Karim Elayoubi, notre chroniqueur santé. On va parler de Dr Lacroix, hein?
Entre autres.
Ouais, règlement. Et on va parler d'autres choses, dossier santé numérique. Ça n'a pas l'air être trippant.
Pas facile.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.